c'était des mecs, ils ont cru au début du siècle, pour s'opposer à Freud, pour être bien réac, ils ont cru qu'ils avaient, les mecs, ils croyaient qu'il suffisait de tendre le bras pour attraper n'importe quoi, et tout ce qu'on veut. C'était ça. C'est comme ça qu'on les stigmatise. Hein. Et donc, les types, ils sont quand même absolument effrayants. Ils ont voulu mettre l'inconscient. Regardez, c'est exactement le problème de la démagogie. Vous avez Le Pen, vous avez Sarkozy. Les démagogues, les types qui prétendent ratisser large, dire n'importe quoi, sans aucune considération, ils en sont à s'en prendre maintenant à la justice, aux professionnels du droit. Et même, ils s'en prennent aux flics alors qu'ils leur passent la main dans le bon sens à un autre moment. Non, mais c'est vraiment incroyable, la démagogie. La démagogie, c'est ce que certains croient d'être assez astuto, malin, vous voyez, pour faire bon compte de l'inconscient. Moi, je vous dis, la psychanalyse ne doit jamais prendre le pouvoir, et les psychanalystes n'ont aucun pouvoir, et ils ne doivent pas en avoir. La seule chose qu'on leur demande, c'est de faire leur analyse, d'être analysant, et d'en sortir quelque chose qui pourrait être entendu dans la cité. Voilà, voilà la fonction politique de la psychanalyse. C'est une fonction essentielle de rappeler des vérités élémentaires, mais sûrement pas au nom de quelque pouvoir que ce soit. Donc ça, c'est exclu. Parce que foutre l'inconscient au pouvoir, vous voyez, c'est pour ça que Lacan, il a fini sa carrière, regardez, à Paris, en disant, dans la dernière leçon, les deux choses qu'il dit, que vous avez déjà parlé de dire « nous sommes tous traumatisés, vous êtes, nous sommes tous traumatisés par le malentendu des parents », bon, ils ne s'entendent pas crier, c'est la droite infinie, il appelle ça la DI, c'est la fonction phallique, l'enfant découvre la fonction phallique dans la déception de ses parents qui se rendent pas compte qu'ils parlent et que c'est un pouvoir et une autorité extraordinaire. Et puis ce qu'il ajoute, d'accord, l'autre chose qu'il dit dans cette dernière leçon avant de se perdre pour toujours, il dit, et ce qu'on appelait autrefois Dieu, maintenant c'est ce qu'on appelle l'inconscient. Ce qu'on appelle l'inconscient maintenant, avant, c'est ce qu'on appelait Dieu. Et il ajoute, faites attention, ne croyez pas que votre inconscient vous veut du bien. Parce qu'il y a des mecs comme ça qui ont inventé dans certaines religions l'idée que Dieu, il était gentil. Et le dieu d'amour et tout ça. Alors, il nous met en garde contre ça. C'est pas très rassurant, mais c'est pas du tout une connerie. C'est important de le dire. Surtout, ne faites absolument pas confiance aux gens qui vont vous dire venez chez moi, vous allez voir, vous allez avoir une garantie, une assurance. Votre inconscient, il va devenir bon, il va devenir gentil, on va le dresser. Pas du tout. L'inconscient, c'est l'horreur. C'est absolument le totalitarisme. C'est le fascisme, c'est tous les excès totalitaires. Donc, le problème, justement, pour aborder ça, pour étudier ça, il ne faut pas être fou. Il faut s'impliquer. La seule garantie qu'on peut avoir, c'est son implication. C'est-à-dire, tant qu'on est une belle âme, on va fabriquer du surmoi, et l'inconscient, il va vous réverbérer. Ah, c'est pas vous, vous y êtes pour rien, mon garçon. Ah oui, ma petite fille, mon monsieur ou madame, vous êtes pour rien dans cette histoire. Eh bien, vous allez voir. Et le mec, il fait des conneries. Vous n'avez qu'à prendre la clinique de la délinquance, par exemple, vous verrez que ça, c'est déjà plus intéressant. C'est moins. Si vous ne le faites pas trop psy, si vous voyez bien que les gangsters, c'est quand même des gens qui sont des gens d'honneur, les gangsters. Ils sont prêts à assassiner, à tuer n'importe qui au nom du bien. N'oubliez pas quand même qu'ils ont une loi des reins, la mafia et tous ces gens-là. Donc, on a des foules, il faudrait continuer le travail de Freud, vous voyez. De voir comment on peut arriver à fabriquer des familles perverses, disait Sartre. C'est pas seulement des familles perverses, qu'il y a un préjugé. Qu'est-ce qu'il sait de la perversion? Il l'a pourtant bien décrit, la perversion dans le champ scopique. Ça s'appelle le voyeurisme. Mais n'empêche que la perversion, c'est ni bien ni mal, c'est pas la question. C'est pas des familles perverses, c'est des familles de fous. Les familles de fous, c'est même Robin des Bois, vous voyez. Je tire dans le tas, je casse des banques en tirant dans le tas. Aujourd'hui, il paraît que même maintenant, on les a tellement poussés là-dedans, là, les gangsters, ils envoient des voitures enflammées dans les pauvres petits distributeurs de billets des banques. Vous avez vu ça? La violence qui se déchaîne chez nous, parce que quoi? Parce que vous avez des démagogues au pouvoir. Et les mecs, ils se croient malins. Ils se croient malins parce qu'ils peuvent dire n'importe quelle connerie. Mais ça, n'importe quelle connerie, vous voyez, moi je suis bien placé pour le savoir, je peux dire plein de conneries. Mais c'est quand même incroyable que le XXe siècle, ce qui continue encore maintenant, ait pu croire que l'inconscient. conscient était quelque chose qui pouvait être tranquille. Hein. Je vois pas pourquoi on s'emmerderait tant à étudier si c'était pas quelque chose qui nous pose un problème. Oui, si vous voulez.
Vous voulez préciser ce que vous entendez par prophylaxie de la dépendance?
Oui, prophylaxie par la dépendance, c'est que quand vous rentrez en analyse, quand vous mettez le petit bout du petit doigt dans cette machine infernale qui s'appelle le langage, c'est ça. Les masos, ils sont rigolos. Vous savez l'interprétation qu'on en fait du masochisme. Le masochiste, c'est quelqu'un qui est préoccupé justement par la balafre, le coup de fouet, parce que il se pose la question, est-ce que c'est une lettre ou pas? Vous voyez la lecture que j'ai de la psychanalyse. Est-ce que la balafre est une lettre? C'est un trait unaire. Si vous ne passez pas par là, vous allez nous faire du sentimentalisme. Oh, ça fait mal. Le masochiste n'a rien à foutre que ça fasse mal. Il veut atteindre son torsionnaire. Il veut atteindre son torsionnaire dans sa subjectivité. Mais lui, le masochiste, il se pose une question malgré. Prenez n'importe quelle perversion, c'est pas complètement con, c'est ni bien ni mal, les perversions, ça existe. Hein, pas de sexualité, sans perversion, sans phobie. Bon. Et puis la psychose, c'est justement, on arrête tout ça, on n'en parle plus, on est des machines. Vous voyez? Alors, la prophylaxie là-dedans, qu'est-ce que ça devient? Ben, vous rentrez le petit bout du petit doigt dans la machine qui s'appelle la psychanalyse. Le rôle de l'analyse, c'est de vérifier d'abord avec vous pendant pas mal de temps, ça peut durer très longtemps, réaction thérapeutique négative sans ça. Il faut faire des entretiens préliminaires. Il faut discuter pour savoir si vous êtes fou ou pas. Ça se discute. Et pourquoi? Ben parce que c'est une prophylaxie de la dépendance. Et vous voyez bien que des analysants fous et des analystes fous, vous en rencontrez plein. Des belles âmes. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ma voisine, mais je vais vous en raconter une autre. Vous avez ma voisine qui est en dessous de chez moi, qui a plein d'images de la sainte de Lisieux dans son appartement. Et c'est une bête sexuelle terrible. Et la sainte de Lisieux, comment ça s'appelle? Sainte Thérèse de Lisieux, c'est terrible. Bon, et ses parents lui ont acheté un appartement parce qu'ils en avaient marre de l'avoir à la maison. La vieille fille, ça. Ça a le droit, hein? Pourquoi pas? Enfin, elle est quand même un peu méchante. Elle est quand même très très méchante. Et alors un jour, on était réunis dans l'immeuble parce qu'il y avait des problèmes avec les voisins. On avait un juriste qui avait été désigné par le juge. Ça s'appelle comment en France?
Copropriétaire,
ça. Non, mais un juriste qui vient, une sorte de quelqu'un qui fait... Vous savez qui vient saisir chez les gens, ça fait un huissier. On avait un huissier qui était venu pour faire une enquête dans l'immeuble. Et on parle du voisin un peu fou, la dame était là, dans la salle, et puis elle. On en vient à parler du fait que je suis psychanalyste, je pratique dans l'immeuble. Alors, évidemment, l'huissier me dit, mais pourquoi vous la soignez pas, la voisine, pas celle dont je veux parler, l'autre qui était folle, je faisais chier tout le monde. Moi, je dis, moi, je soigne personne. Alors, surtout pas. Vous vous trompez, c'est difficile d'expliquer à un huissier que je sois personne. Ça veut dire, mais alors qu'est-ce que vous faites? Moi je fais mon analyse, j'essaye de me soigner, c'est pas mal. Bon. Là-dessus, la dame qui était là, la dame qui a des images pieuses chez elle dans les murs, elle laisse tout le monde passer la séquence, bon, la parole retombe un peu, elle tapote dans la table, comme ça, elle dit, moi la psychanalyse, j'ai essayé. Mais avec moi, ça n'a pas marché. C'est une belle formule. Vous voyez, c'est une belle formule. Il y a des quantités de gens qui font même une analyse pour prouver que ça ne marche pas. Ça leur coûte un peu d'argent. Mais ils sont disposés même à dépenser cet argent parce qu'ils ont l'impression de remporter une grande victoire. Vous voyez. Bon. Et je pense que ça, c'est tellement général qu'il faudrait qu'on puisse en parler. Sans accuser nominalement, moi je crois ou pas, cette pauvre femme, on s'en fout. Le problème, c'est pas nominal, le problème, c'est de voir que effectivement, tout le monde est là, comme il n'y a pas beaucoup dans l'analyse de sujets qui viennent vous dire si j'y arrive pas, je me flanque par la fenêtre. Vous voyez ? Ils ont tendance à avoir des désirs en réserve, comme dit Lacan, pour éviter l'angoisse, il faut avoir des désirs en réserve. Et dans le milieu analytique, on n'a pas beaucoup d'angoisse. Hein. Ils ont donc suffisamment de désirs en réserve. Bon, alors comment se faire pour avoir des désirs en réserve et ne pas être angoissé? Ben, moi, je vous donne un truc, faites quelques petits exercices de mathématiques. Vous voyez, moi, je m'ennuie jamais grâce à ça. Je n'ai jamais ni dans les salles d'attente, ni dans les avions, ni dans les transports. J'ai plutôt tendance à rater les stations. Bon. Donc voilà. Alors maintenant, je vais effacer mon point de capiton. Est-ce qu'il y a une question sur le point de capiton avant que j'efface ? Vous voyez, ça commence par une histoire. Tout ceci nous permet d'écrire dedans, dehors. Dehors, dedans. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, vous avez des diagrammes de l'Herveld. Ça, c'est une écriture algébrique, ça, c'est une écriture
diagrammatique.
Et Lacan, il prolonge l'écriture diagrammatique, il appelle ça topologie. Vous voyez ? La topologie, c'est une manière de rendre souple la logique du concept. Mais on s'aperçoit en faisant ça que plus on avance, moins c'est le concept et la conceptualisation et la classification qui nous intéressent, que plus on fait ça, plus ce qui nous intéresse, c'est la lecture. Comment lire ça ? Comment écrire avec ça ? Comment écrire d'une manière différente de l'écriture ? Bon. Alors, il y a des mecs qui vont faire du japonais, il y en a d'autres qui vont faire, je ne sais pas, du sanskrit. Vous pouvez chercher des trucs exotiques. Bon. Moi, je pense que c'est très très bien. Je ne comprends pas que dans la psychanalyse, il n'y ait pas des cours qui enseignent l'histoire et la technique de Champollion qui a découvert la lecture de la pierre de Rosette. Ça, je comprends pas. Tout le monde prétend être freudien, personne. Freud, quand même. Celui qui a inventé la méthode psychanalytique, c'est Champollion. Freud, quand il a dit hop, top là. Hein. Il faut deux versions du même texte pour lire un texte quand on ne connaît pas son système d'écriture. Vous voyez, je parle de système d'écriture, ça veut dire que les systèmes d'écriture sont des inventions. Comment ? Il faut deux versions du même texte pour lire quelque chose dont on ne connaît pas le système d'écriture. Pour recomposer, pour reconstituer le système d'écriture, il faut deux versions du même texte. C'est-à-dire que Champollion, il avait la pierre de Rosette, il avait même trois versions. Hein? Bon. Donc c'est pour ça que Freud il propose de raconter le rêve, une version, et puis d'associer sur le rêve, deuxième version. Il y a la version telle qu'elle a été rêvée, puis la version les souvenirs du haut de ce à quoi ça vous fait penser, tout ça. Et en croisant les deux, on a peut-être une chance de lire, bon. De reconstituer le système. Vous voyez bien que ça s'est transformé en quoi dans l'histoire ? Vous avez des gens, ils viennent comme ça, ils se mettent sur un divan, puis ils jacquent, ils déconnent à plein tuyau pendant un quart d'heure ou une heure, plusieurs fois par semaine. Et aujourd'hui, ça de moins en moins, parce que c'est quand même un peu cher, et on préfère faire des psychothérapies. Donc on veut un temps fixe, mais il ne faudrait pas que ça soit trop long. Et donc, il ne faudrait pas que ce soit trop court non plus, parce qu'on peut en avoir pour son argent. Donc, le problème, non mais on se fout du monde. Tout le monde se fout du monde. Et les autres, les psys, ils ne peuvent pas le dire parce que c'est leur gagne-pain. Alors, il ferait mieux d'avouer qu'ils reçoivent des réactions thérapeutiques négatives. Ils font comme Freud, comme Lacan. Lacan, lui, il avait inventé un truc encore mieux, c'est le contrôle. Il a raté le contrôle et il a mis tout le monde en contrôle. Génial. Bon, moi, je pense qu'il a eu raison. Mais nous, notre problème, il n'est plus là. Lacan, il avait ses raisons, il devait faire son mouvement international, sa contre-expérience freudienne. Il y avait Freud qui avait fait ça avec beaucoup de peine. Nous, on n'a pas de contre-expérience freudienne, de contre-expérience lacanienne à faire. C'est fini. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, moi, je dis qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est son analyse. Voilà. Mais il faut le dire franchement, il faut le dire honnêtement. Faire son analyse. Et si on veut pratiquer l'analyse en faisant des gens, c'est même pas un métier. Non, mais si on veut faire profession de psychanalyse, on peut le faire. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est de faire votre analyse, c'est d'être analysant et de le rester. Même Freud l'avait vu, c'est un truc qui finit plus. Quand on a commencé. Et c'est pour ça qu'il y a une prophylaxie d'indépendance. Il y a quelque chose comme ça dont on ne peut plus. C'est comme la dope. Hein. Bon, il y a le fait du fric qui rentre, mais il y a aussi, parce que c'est vrai chez les dealers aussi, hein, ils continuent à faire du trafic de drogue parce que. Il y a de l'argent chez les dealers, ils gagnent de l'argent. Ils ne savent plus très bien s'ils vendent de la drogue parce qu'ils consomment ou parce qu'ils ont de l'argent. Hein? C'est le même processus chez tous les analystes. Ils ne savent pas faire autrement. Bon. C'est quand même ça la répétition. Hein? Il y a sûrement quelque chose qui est fort dans le lien, n'est-ce pas ? Mais il faudrait justement pouvoir en parler parce que ce lien aussi, ça s'analyse. Vous comprenez ? Il n'y a aucune raison de me dire qu'il y a quelque chose qui doit rester sous couvert. Mais on ne peut pas en parler ni en groupe, ni en société. Hein, on ne peut pas aborder ça dans le discours, dans le lien social. Lacan, il a inventé la passe pour ça. Mais pour qu'il y ait une passe et qu'on puisse parler de la fin de l'analyse chez un analysant, ce moment où l'analysant, il se divise en deux. Il a obtenu de l'analyser et puis il y a du non-analysable. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a du côté de l'objet A pour un analysant quand il finit son analyse, enfin, quand il passe par ce moment de séparation, qui n'est pas forcément la fin, mais qui est une scansion importante, suffisamment importante. Il se trouve qu'ici, il y a du non-analysable. Il pourra le remiser dans une autre analyse, ce non-analysable. Hein. C'est là-dedans. Bon, donc qu'est-ce qui devient l'analysant quand il se sépare en deux à la fin de son analyse, enfin, à la fin d'une tranche de cette analyse? Il se sépare entre de l'analyser, il a gagné quelque chose, s'il a fait quelque chose. Hein. Il y a des signifiants, il y a une série de signifiants, un essaim de signifiants qui sont recueillis, qui sont le produit de l'analyse. Et il y a de l'inanalysable qui est emporté par l'objet A. Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux, hein? Et bien c'est d'essayer de devenir, parce qu'il s'aperçoit de quoi pour arriver à cette passe. Il faut qu'il s'aperçoive que l'analyse qui s'était donnée, ce n'était pas l'objet A en question. Que l'analyse qu'il cherchait, ce n'était pas celui-là. C'est ça la notion de transfert. Il y a erreur sur la personne. Donc le A en question, c'est peut-être, vous voyez. Et les grands analystes, enfin moi j'ai connu Lacan, je vous promets qu'il faisait bien savoir qu'il n'était pas l'analyste qu'on croyait. Mais il y en a même un qui a écrit un livre qui s'appelle Le Pitre.
Veillance.
Il s'appelle comment celui qui
écrit
Veillance, hein, il écrit Pitre. Bon. Vous voyez, il se paye la gueule du monde parce que le Pitre, bon c'est rigolo Lacan, mais c'est pas une raison de dire que c'est le Pitre. Vous voyez.
Il y a une polémique aussi.
Comment?
Il y a une polémique à ce sujet.
Ah bon?
La réponse a été attaquée sur France Culture dans un des émissions consacrées à la réponse. Et il dit bien, il explique très très bien que le pire, ça n'est pas la réponse.
C'est lui?
Oui.
Bon, tant mieux.
Il dit qu'il est.
Ah, c'était nécessaire, parce qu'on avait tous cru que c'était la réponse, lui.
Non, pas du tout.
Bon, parce qu'il faut voir comment ça se passe à la fin. Quand même, ça traîne un peu la fin. Hein? Il vient le voir, il ne paye pas, il ne paye pas, il ne paye plus, puis il finit par plus le voir. Donc le problème est là. Non, non, mais le problème, il est surtout que la question, elle est que l'analyste, il n'est absolument pas question qu'il remplisse le rôle qu'on lui demande de jouer. Il est dans la position de l'acteur, vous voyez. Regardez comme quoi on est encore des arriérés. Tout le monde a. Regardez l'acteur studio, Kazan, tous ces gens-là. Regardez ce que ça donne. Ça donne Marlon Brando, vous voyez. Les yeux retournés vers l'intérieur, comme ça, il se regarde à l'intérieur, vous voyez, comme le penseur de Rodin. Vous voyez, le mec, c'est quand même, vous avez qu'à lire Nietzsche, la fin de la tragédie, la naissance de la tragédie, vous avez quand même Dionysos d'un côté, puis Apollon de l'autre. Bon, c'est ça, Apollon, le mec, il se regarde les tripes, hein, il a l'air d'être très intelligent. Et là-dessus, qu'est-ce que c'est, ben, le directeur de théâtre, ou le directeur, le maître de théâtre, c'est quoi? Ben, ce serait celui qui dirige. Bon. Et ben, l'analyse, c'est une lecture inverse de ça. C'est celui qui, dans l'analyse, est dans la position de l'acteur, c'est l'analyste. On vient le voir avec, on a la pièce de théâtre sous le bras, on lui demande de la jouer. Ben, l'analyste, il ne faut pas qu'il la joue. Alors, il peut la jouer un peu, mais il ne faut pas qu'il se la joue et qu'il la joue trop. Parce que ça ne sera jamais de l'analyse. Justement, on doit être déçu. Lacan, il le dit très joliment. Il dit, psychanalyste, je le déçuis. Si vous avez de l'oreille dans le désêtre de l'analyste, je le déçuis. Hein, vous allez entendre déçu. Hein, je le déçois. Et oui, je le déçuis. Hein, et l'analysant, je le déçois. Il faut, alors, comment décevoir quelqu'un sans produire un passage à l'acte? Voilà la question. Hein, c'est pas un acting out non plus, c'est pas qu'on jette l'analyste à la poubelle comme un Kleenex, c'est pas non plus le fait qu'on se jette à la poubelle comme un Kleenex soi-même parce qu'on est déçu par le grand autre, c'est pas un petit autre qu'on jette à la poubelle, vous voyez, c'est ça la différence entre acting out et passage à l'acte. Et du coup, la déception, ça doit venir, c'est l'analysant qui doit le pratiquer. Bon. Ça, c'est la sortie de la soumission, de toute soumission, vous voyez. Mais le problème, c'est vraiment ça décape. Hein. Bon. Et c'est vrai que c'est une prophylaxie de la dépendance, parce que pendant tout ce temps-là, le transfert, c'est effectivement une dépendance énorme. Et tous ceux qui sont encore en dépendance, hein, ils sont dépendants. Vous voyez? Bon. Alors, ils certains, ils sont contents parce qu'ils ont une voiture, ils peuvent faire comme le ministre, ils ont une femme, une voiture, des enfants, et les enfants, ils envoient leurs enfants au collège Henri IV, et ici, à l'école normale, il y en a qui sont comme ça. Ils sont petits, mais ils voudraient être aussi des cadres supérieurs ou des ministres. Bon. Et moi, je leur dis que si on ne peut pas tout avoir, hein, si on veut pratiquer la psychanalyse à l'heure actuelle, moi, je n'ai pas de voiture, parce que je n'ai pas assez d'argent pour avoir une voiture. Je gagne bien ma vie, très confortablement. Je vis à moitié en Argentine, à moitié ici. Et j'ai consacré ma vie à la psychanalyse, pas à faire du fric. Alors voilà la différence, vous comprenez. Moi, je ne veux pas avoir une clientèle de pauvres mecs qui sont des réactions thérapeutiques négatives. Pour moi, il est très important qu'on sache que je ne pratique pas la psychothérapie. C'est une escroquerie de laisser croire. Vous voyez, je ne suis pas contre les escroqueries, puisque je vous dis que j'ai vécu comme un japonais qui apprenait le yiddish, alors que je croyais apprendre l'anglais. Enfin, je faisais croire plutôt à ma belle famille que j'apprenais l'anglais. Bon. Mais n'empêche que je vous dis qu'on ne peut pas quand même abuser de ces choses-là. Il faut. Et qu'est-ce que j'ai trouvé en Argentine, justement? Une petite différence avec ici, ils ont 30 ans de retard, peut-être même 50. Alors, il y a une espèce d'ambiance d'études et dans le milieu lacano-freudien, il y a une espèce de goût de l'étude et de la littérature. Ils sont tellement perdus au milieu des pingouins qu'ils sont angoissés. Donc, on trouve encore des choses extrêmement charmantes et des gens qui sont plus en prise avec ce qu'on a connu dans les années 70. Vous voyez, ça fait quoi les années 70? Ça fait bien 40 et quelques années. Bon. Vous voyez, bon. Mais le problème, c'est que il ne faut pas non plus se moquer des gens. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, ils ont autant de difficultés que vous avec la psychanalyse, avec la topologie, les mathématiques et le reste. Qu'est-ce qui est important de piger dans cette histoire de mathématiques et de psychanalyse? C'est quand même le fait de ce que j'appelle la contingence. Hein. Mais la contingence, et ça va nous faire conclure à propos de la dépendance, la contingence, qu'est-ce que c'est? C'est la foi. Vous voyez, la différence qu'il y a entre la croyance et la foi, c'est que la foi, c'est la contingence. C'est pas la croyance au cœur. Freud le dit très bien, au cœur de toute croyance déviante, vous avez une incrédulité. Si vous êtes incrédule, si vous n'avez pas confiance, si vous vous méfiez, si vous êtes là, vous avez peur parce que vous croyez que c'est les autres qui vont pas être gentils, tout ça, vous ne ferez rien du tout. Bon. Rendez-vous compte que c'est vous qui voulez pas le faire. Et que ce que vous faites, c'est vous qui le faites. Bon, ça c'est le début de ne pas être une belle âme. Mais ça vous met dans une situation, effectivement, dans laquelle la question n'est pas de croire, la question est d'expliquer. Et pour pouvoir expliquer, il ne faut pas y croire, mais il faut reconnaître que l'explication, elle ne se produira pas à telle heure, tel moment, il n'y a pas d'algorithme. C'est ça la connerie, vous voyez, l'enseignement des mathématiques, c'est un enseignement où on vous a appris à faire des calculs avec des formules. Et aujourd'hui, on les a mécanisés, même ces calculs, certains des calculs. Mais il y a des calculs qui ne sont pas Turing constructibles, qui ne sont pas Turing calculables. Et c'est ça qui est intéressant, ça c'est contingent. Démontrer, faire un exercice de maths, même s'il a déjà été fait, vous pouvez regarder le bouquin où ça a été expliqué. Mais si vous essayez de le faire vous, vous ne savez pas quand vous trouverez la solution. Ça peut même vous angoisser. Et dans la psychanalyse, c'est pareil. Ça veut dire quoi la contingence? Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir quand ça va se produire. Et Freud, qui a un courage que je trouve admirable, un esprit scientifique et une honnêteté intellectuelle formidable, il a complètement merdé avec l'homme au loup, et il l'a écrit, il a dit, moi je lui ai dit, dans 15 jours c'est fini, ça a été une catastrophe pour l'homme au loup, on en parle encore, hein, One Week, tout ça. Bon, il faut reconnaître ça, Freud, ce courage extraordinaire. Il n'y a pas un savant qui même oserait dire combien de merde il a pu faire dans son laboratoire. C'est comme ça qu'on trouve la pénicilline, vous savez. On oublie une saloperie sur un bout de paillasse et puis pof, on s'aperçoit que ça fait du fromage, ça fait du roquefort. Bon, donc, il faut quand même dire ces choses-là. Même en science, aujourd'hui, il n'y a plus de découvertes fondamentales, il y en a très peu, parce que même les découvertes fondamentales, je parle de recherche fondamentale, ça demande du temps, beaucoup d'argent, et ça demande une passion, voyez-vous, et une certaine foi, même en science. Qui s'appelle la reconnaissance de la contingence. Le possible, nous dit Lacan, le possible, c'est ça pourrait ne pas avoir lieu. Ah voilà, tout le monde confond contingence et possible. Si c'est possible, c'est que ça doit pouvoir se produire. Eh ben non, D'accord, il nous dit, réfléchissez, le possible, ça veut dire ça pourrait ne pas avoir lieu. Le traitement possible des psychoses, justement, vous pouvez assister bien qu'aujourd'hui, il est même venu au pouvoir en Europe, il est en train de prendre le pouvoir, de nouveau, comme dans les années 30. Hein. Tous les vieux, là, qu'on connaît les années 30, ils sont de plus en plus morts. Alors personne ne s'en aperçoit. On va nous faire le coup comme ça. Tous les 30 ans, on va nous remettre un certain nombre de fascistes, de droite ou de gauche, hein, des connards vraiment, des abrutis totaux. On va nous les remettre au pouvoir. Pourquoi ? Parce que c'est malin, c'est astucieux, c'est bien, ça plaît à la population, au peuple, il est content. Vous voyez ? De favoriser quoi ? Le marketing, le management, tous ces trucs. Non, écoutez, il faut être sérieux. La question, elle est bien de rendre compte de ce qui se passe en matière, justement, de difficultés. Nous ne savons pas ce que c'est que lire, nous ne savons pas ce que c'est qu'écrire, nous ne savons pas ce que c'est que parler. On commence à le savoir quand on étudie un peu avec Freud. Et avec Lacan. Par exemple, le narcissisme, c'est une école de lecture. Vous voyez, tout le monde en a fait quoi ? Freud a dit « névrose narcissique pour Schreber ». La psychose schreberienne, d'ailleurs, bonne nouvelle, c'est Lacan, il a transformé la théorie de la psychose, et Schreber n'est pas psychotique. J'ai rencontré à New York un psychiatre américain qui pratique la psychanalyse en 15 langues. Hein. Si vous avez des problèmes, si vous ne voulez pas la faire en français, votre analyse, vous pouvez aller le voir. Sur sa carte de visite, il écrit ça. Il énumère toutes les langues qu'il connaît. Il vous fait l'analyse en 15 langues possibles. Hein, si vous voulez la faire en yiddish, justement, allez vite. Il y a yiddish, c'est pas partie aussi. Bon, le point, il est que le mec, il a écrit des articles, il est venu en Europe, il est allé en Belgique, à Louvain, il est allé en Angleterre. Il veut démontrer à tout le monde entier que Schreber n'est pas psychotique. Moi, ça m'amuse parce que justement, Lacan, dans Symptôme, il expliquait que la psychose, c'était un symptôme de lui, c'était son symptôme, la théorie du symptôme psychotique chez Freud. C'était l'ancien régime de la psychose. Hein, qui est donc le noyau du symptôme de Lacan, c'est donc son symptôme. Bon, personne ne vous dira ça, parce qu'ils n'ont pas lu Marx. Lacan, il me dit, lisez Marx, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un symptôme. C'est lui qui les a définis, les symptômes. Bon, là-dessus, c'est pas pour autant qu'il n'est pas dans une pétition de léniniste, hein, quand il dit ça, Lacan, lisez Marx sur le symptôme. Bon, donc, on pourrait annoncer la bonne nouvelle à cet Américain qui vit. Du côté de Central Park. Hein. Moi, je l'ai rencontré, je trouve que c'est un type absolument charmant. Je l'ai rencontré dans l'école, dans ce qui reste, l'école de Adorno et de l'école de Francfort à New York. Ça s'appelle le New York School, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est des institutions magnifiques, c'est comme ici, vous voyez, ce qu'il en reste. Et même moi, on m'accueille. C'est quand même inquiétant. Non ? Ah oui!
Sur le doigt.
Oui, écoutez, moi j'ai rien à faire ici. Je suis ici grâce à l'Institut d'études de la philosophie française contemporaine, créé par Badiou, Ogilvy et quelques autres, Balibar et tout ça. Je suis le seul à traiter le problème, hein, à dire qu'est-ce qui s'est passé en philosophie contemporaine dans les 60. Il s'est passé que. On ne sait pas comment s'y prendre avec ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle. Ce que j'essaye de faire avec ça, c'est vous diriger vers l'écriture qui va nous permettre d'écrire justement le poinçon du fantasme. Et qu'au cœur de ce poinçon, vous avez quelque chose qui s'appelle la séparation. C'est ça que j'arrive pas encore à écrire. C'est pas encore écrit. Hein. C'est avec ça que j'espère écrire le poinçon du fantasme. Alors, est-ce que j'ai le temps de vous dire ? Non, il est l'heure, je vais arrêter. Donc la semaine prochaine, je pourrais vous dire comment avec ça je pense pouvoir écrire. Non seulement la séparation, mais dans la séparation, la répétition freudienne. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la grande menace. C'est la crise, vous voyez. C'est l'incomplétude. Bon, allez, j'arrête. À la semaine prochaine. Alors, jeudi, hein, jeudi soir, il y a une réunion à l'ITP où on va étudier les surfaces. Ceux qui veulent venir sont bienvenus, n'est-ce pas, Jean ?
Tout cela, maintenant.
Non, je vais vous charger de commencer sans rien, mais j'arrive, mon train va juste à moins de quart. Donc, quand je viens en taxi, j'arrive, d'accord ? Ça vous paraît convenable, non ?
Tout à fait.